commencer notre séance d'aujourd'hui, donc qui va débattre le troisième ODD, l'objectif de développement durable. Je vous souhaite la bienvenue et j'aimerais aussi donner la bienvenue à tous les parlementaires au nom du vice-président de l'Assemblée de la République, Georges Lecun. Donc, j'aimerais vous dire que c'est un plaisir pour nous, c'est un plaisir pour moi de modérer cette séance qui est aussi constituée par différentes personnalités que je vais présenter après et vous allez pouvoir voir que nous allons avoir une séance très agréable, une séance aussi très utile pour discuter la bonne santé et bien-être, santé de qualité qui est l'objectif de ce développement durable. Donc, nous avons de l'interprétation. Je pense qu'elle fonctionne. L'interprétation simultanée fonctionne en anglais et en français. Et j'aimerais aussi mentionner que vos visites hier ont été agréables et utiles au niveau des deux séances que nous réalisons et avec le président des 12 plus que nous avons organisé au Portugal. Ces visites, malheureusement, je n'ai pas pu les faire, mais je sais que tout a été très positif. Nous avons aussi le président des 12 plus, Duarte Pacheco, et j'aimerais présenter nos conférenciers et j'aimerais leur remercier pour être ici avec nous. Donc, je présente du côté gauche professeur Adalbert Kempf-Fernandes qui a un diplôme de l'Institut des sciences sociales et politiques de l'Université de Lisbonne, maître en santé publique. Et professeur, il a été aussi ministre de la Santé du Portugal. Il a exercé différentes fonctions, fait partie de différents conseils d'administration, HPP, l'hôpital de Cascais, l'hôpital de Santa Maria, Polivalente, etc. Il a fait partie de leur conseil. Donc, il a écrit plusieurs articles, il a intégré différentes associations scientifiques internationales, etc. Et je vais présenter le deuxième conférencier qui est pour le professeur Francisco Jorge, aussi est né à Lisbonne, aussi un diplôme de médecine, de la faculté de Lisbonne, aussi un diplôme de l'École nationale de santé publique. Il a exercé différentes fonctions dans l'Organisation mondiale de la santé. Il a travaillé dans différents pays comme à Bissau, Harare, Pékin, Shanghai. Je ne vais pas vraiment mentionner tous les pays où il a été parce qu'il a vraiment voyagé beaucoup. Et en ce moment-ci, comme vous le savez, est notre président, c'est le président de la Ligue de la en ce moment-ci de la, il est président de la Croix-Rouge. De la Croix-Rouge. Et aussi, a été cadre à l'Union européenne, a représenté le Portugal au niveau de la HIV, de la santé. Donc, il a eu différentes fonctions et il est très connu au Portugal et dans le monde entier. Et je vais aussi présenter Madame parlementaire, présidente de la délégation suède de l'UIP. J'aimerais lui remercier d'être ici avec nous. Elle a été aussi présidente de différentes commissions liées aux impôts, sécurité sociale, etc., défense, sécurité, agriculture, environnement, bien-être des animaux, etc. Donc, elle va nous donner sa vision et son expérience au niveau des politiques de la santé en Suède. Et aussi, nous allons avoir avec nous, à travers d'une conférence, la vidéoconférence, il y aura aussi une conférencière que j'aimerais remercier, Madame Emilia Aragon. Elle est au bureau régional de l'OMS pour l'Europe, pour la santé et développement. Et elle va nous parler de ce pays, de son pays. Et elle remplace, je sais que vous avez le CV de Madame Bettine Mariamen, mais qui ne sera pas, mais qui n'est pas disponible. Donc, on aura Madame Emilia Aragon qui la remplace et qui va aussi nous parler sur les défis au niveau de la santé, les déterminants économiques de la santé. Donc, après cette brève présentation de nos différents conférenciers, j'aimerais commencer cette séance et j'aimerais souligner l'importance de ce débat au niveau des questions liées à la santé et au Portugal. Nous avons eu plusieurs débats sur ce thème et avec la particularité d'avoir un service national de santé que nous valorisons beaucoup et comme le président de l'Assemblée l'a mentionné hier, et encore une fois, c'est pour nous, c'est vraiment quelque chose qui est très important pour que les gens puissent avoir accès à ce système national de santé et d'avoir dans leur vie tout ce qu'ils ont besoin et où qu'ils soient, dans n'importe quelle ville sur notre territoire. Ces soins de santé, non seulement au niveau de santé primaire, mais sa prévention, le bien-être, donc une qualité de vie que nous voulons qu'elle soit une qualité de vie qui fasse la prévention des risques et je dirais même une médecine préventive qui prend en considération le bien-être de la personne et que personne ne soit oublié dans cette exigence que nous avons au niveau. Et tout cela est essentiel à tous ces niveaux. Et après avoir dit ceci, je passe la parole au professeur Adarbo Kamsch Financial. Professeur, vous avez la parole.
Merci. Permettez-moi de commencer par saluer le vice-président de l'Assemblée de la République et le géopolitique Douart Pacheco et Georges Lacan. Et j'aimerais saluer tous les participants et remercier l'invitation si aimable d'être là pour réfléchir avec vous sur des questions qui sont tellement importantes pour notre pays et pour le monde en général, comme le dit les Nations Unies. Les objectifs ODD qui ont été définis par les Nations Unies, mais surtout un appel à l'attention internationale pour faire des efforts pour en finir avec la pauvreté, pour protéger la planète et pour assurer que tout le monde peut vivre en paix et en prospérité. Les dernières décennies ont été marquées par une amélioration des qualités de vie dans leurs multiples dimensions qui ont eu une influence très positive sur le développement humain. Nous avons assisté à une profonde transformation de la démographie et de la distribution des maladies. Au cours des dernières 40 années, le monde a changé, les sociétés sont devenues plus complexes, en même temps que les besoins en santé se sont est avéré plus difficile à satisfaire à cause de ressources financières qui sont devenues aussi plus difficiles à trouver. Le vieux paradigme de la maladie aiguë a été remplacé, surtout dans les pays les plus développés, par le poids grandissant des maladies chroniques non transmissibles. Le succès que le monde a vécu, c'est dû en grande partie, et c'est dû en grande partie à la recherche, au développement et à la connaissance scientifique profonde, mais aussi au développement économique et social, et très important à la création de la généralité des pays, de la protection sociale et de la santé. C'est peut-être le point le plus perturbateur dans l'horizon auquel nous devons faire face dans les prochaines années. Permettez-moi de partager avec vous que le Portugal, depuis le début de la décennie des années 90, a une augmentation de la population de plus de 65 ans et une diminution supérieure à 20% de jeunes et enfants de moins de 25 ans. Si rien n'est fait, en 2060, la population de notre pays passera des actuels 10 millions à 8,6 millions de personnes, avec un index de vieillissement qui passera des 131 à 307 personnes âgées pour chaque jeune. Il faut donc voir cela comme un des plus grands défis pour pouvoir être en ligne avec ce qui est défini dans les objectifs de développement durable. Dans un cadre différent où prédominent les principes de la prestation de soins, l'éthique dans la décision des politiques, une rivalisation de l'attention à la technologie et une attention aux personnes et à la citoyenneté, nous ne pouvons pas perdre de vue que l'écosystème d'innovation et de développement est un facteur déterminant, notamment dans l'augmentation des frais, et nous sommes aussi face à une importante transformation des connaissances et du potentiel du capital humain. La répartition des ressources, comme je l'ai déjà dit, est de plus en plus difficile dans certains pays, et pour être solidaire, elle doit tenir compte des choix basés sur une rigoureuse sélection. Le développement social doit être promu, et ainsi que la dignité humaine. Pour répondre à une équation qui est difficile à résoudre un peu partout dans le monde, comment sera-t-il possible d'assurer le financement des politiques publiques de santé en assurant leur modernisation, différenciation, avec des ressources humaines favorisées? Peut-être que l'aspect le plus important qui nous arrive pour le millénium et pour le développement durable, ce sera que la politique de santé concerne tout le monde et ont des applications qui nous responsabilisent face. L'orateur s'est aperçu qu'il parlait trop vite, en effet, et je m'excuse, dit l'orateur. Nous savons que chaque année, plus de 6 millions d'enfants meurent avant les 5 ans. Nous savons aussi que le poids des maladies évitables, comme la rougeole et la tuberculose, n'ont pas seulement diminué comme elles surgissent dans des pays, comme ces maladies surgissent dans les pays imprévisibles. Des femmes meurent chaque mois à cause de sa grossesse. Et le sida est aussi une des principales causes de mort dans l'Afrique subsaharienne, qui est dévastée par l'épidémie du sida. En concluant, je dirais que les objectifs de développement durable attirent l'attention des décideurs des pays, des gouvernements, des ONG, à une idée centrée sur la vie d'atteindre aussitôt que possible l'idéal de la couverture générale. Une société moderne et juste doit assurer le droit à la santé d'une façon équitable. Ce n'est pas acceptable dans aucune circonstance, du point de vue moral, éthique, politique, des limitations à l'accès à des soins de santé de qualité en temps opportun et en fonction des besoins des citoyens. L'expression définie par l'Organisation mondiale de santé, locally, est de plus en plus importante pour promouvoir l'intégration des soins orientés pour que le citoyen puisse finalement être le centre des soucis, des politiques, des préoccupations des systèmes. Réduire les inégalités passera nécessairement par la création de systèmes globaux où l'universalité, l'accès facilité et la gratuité tendancielle soit un impératif dans la décision. Finalement, introduire aussi dans les politiques de santé l'idée centrale que l'investissement en santé a un retour direct, mais a surtout un retour social d'une valeur incroyable. Et il nous faut aussi regarder les difficultés budgétaires des différents pays, non seulement avec la préoccupation de l'augmentation des frais et les risques que cela comporte, mais aussi en pensant à l'investissement dans les personnes pour le développement de toute l'humanité. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, professeur Adalberto Fernandes, notre ancien ministre de la Santé. Il nous a parlé entre les liens de la santé et droits humains et cette préoccupation de l'universalité du droit à la santé qui est très important selon les besoins et les défis inhérents au budget en ce qui concerne cette question. Et j'aimerais encore le remercier. Donc, je passe la parole au docteur Francisco Jorge, président de la Croix-Rouge portugaise. Il va nous parler de son expérience comme directeur et médecin et les obstacles qui existent au niveau de l'accès à la santé et garantir que les populations vulnérables, marginalisées soient oubliées. Aussi, il a une très grande expérience. Il a voyagé partout dans le monde et il est très connu au niveau du travail qu'il a fait sur ces questions. Merci beaucoup. Merci, parlementaire Hortense Martins. J'aimerais aussi remercier le vice-président de l'Assemblée de la République, Jorge Lacan, et le parlementaire Duarte Pacheco, président du groupe des 12+. Je souligne l'intérêt que j'ai à participer dans ce débat avec tous les autres participants qui intègrent notre groupe. Donc, je vais essayer d'organiser certaines notes qui vont me permettre, dans un petit comité, discuter, débattre certains thèmes. Et cela d'une façon plus approfondie, parce que on n'aura pas l'opportunité de développer tous ces aspects en profondeur. Donc, mon ami collègue Adalberto Campos Fernandes a déjà mentionné l'importance des déterminants sociaux. Déterminants sociaux dans la santé publique et il faut approfondir, il faut savoir que la pauvreté est la composante la plus importante et le facteur plus important de risque, le facteur de risque au niveau de la santé, mais aussi au niveau du cycle de vie. Et c'est pour cela, et pour certaines raisons qui ont trait à l'accès, que nous pouvons dire clairement que la santé des peuple, la santé de la population et aussi la prospérité, en outre le welfare, le bien-être social, prospérité. Ce sont des questions liées à la démocratie. Je souligne la santé de la population est aujourd'hui un problème de démocratie. Et les États ont la responsabilité de réduire, d'éliminer cet aspect social qui va mener à tous ces problèmes. Les Anglais, Michael Marmot a démontré qu'une étude longitudinale avec deux échantillons, un échantillon qui était constitué par une population pauvre et un autre échantillon au niveau de la famille à une position au niveau de revenus des familles. Le premier signe de la maladie d'Alzheimer sont 15. C'est 15 ans avant dans le groupe qui était dû les événements du groupe pauvre. 15 ans avant. Donc, il y a ici une grande lacune. Il y a une différence sociale, une inégalité qui doit vraiment préoccuper, inquiéter les représentants de la population, c'est-à-dire les parlementaires et les politiciens, parce qu'au niveau de la démocratie, on ne peut pas accepter que les premiers signes d'Alzheimer ou d'incapacité émergent 15 ans avant dans les populations qui sont pauvres quand on compare la population avec la population plus riche au niveau du revenu des familles. Et je ne veux pas prendre trop de temps parce que ces débats sont très importants pour pouvoir discuter les différents termes et organiser la discussion, comme je l'ai dit, en petits groupes, donc pour pouvoir mieux réfléchir sur la question. Donc, dans les prochaines années à venir, au niveau de durabilité, et la durabilité ici est observée, analysée comme le besoin de prendre des décisions maintenant, aujourd'hui, mais ces mesures prises aujourd'hui ne peuvent pas affecter les prochaines générations. Les mesures doivent être prises au niveau de protéger les jeunes, les enfants, nos petits-enfants, etc., dans les prochaines 20-40 années. Et ces mesures doivent être prises maintenant. Et on a quatre groupes. En premier lieu, nous avons les maladies chroniques. Les maladies chroniques non transmissibles, comme le cancer, les maladies cardiovasculaires et le diabète, ont besoin de mesures immédiates. Diabète type 2, qui représente une épidémie avec une courbe qui est en train d'augmenter de façon qui n'est pas contrôlée, qui doit être corrigée immédiatement. Le diabète a augmenté énormément et le diabète a besoin d'être réduit. Et donc, les États et les membres du Parlement, les parlementaires, l'Union européenne et le Parlement ont besoin de prendre des mesures sur les déterminants commerciaux qui sont à l'origine de ce phénomène. Ce phénomène qui est lié au diabète et la relation du sucre au niveau des aliments de la population. C'est une question de fond. que tous les politiciens doivent repenser et doivent aussi être responsables à ce niveau-là. Personnellement, j'ai participé dans des séances du Parlement européen où il y a eu plusieurs discussions, des discussions éternelles, et n'ont pas pu décider du besoin de réduire la consommation du sucre, le contenu du sucre dans les aliments. C'est un problème. Deuxième problème, la question de la résistance aux antibiotiques. Nous devons prendre des mesures, même des mesures législatives pour protéger les antibiotiques, des bactéries antivirales au niveau des particules pathogéniques et les antiparasites comme le paludisme, antipaludisme au niveau des protozoaires. Donc on a devant nous, nous avons un contexte très préoccupant et nous avons besoin de mesures politiques. Donc je dirais, et je ne veux pas vous choquer, mais on a besoin que les politiciens doivent comprendre qu'il y a des aspects de santé publique qui peuvent résoudre avec leurs mesures législatives. S'ils ne le font pas, les enfants de demain, petits-enfants, vont accuser la génération des politiciens par le manque de mesures qui doivent être mises en œuvre. Un troisième groupe de problèmes est lié aux effets de la santé publique, la conséquence du changement climatique. Alors, nous avons le cancer de la peau, le mélanoma, nous avons la transformation de régions de notre territoire qui sont sous-tropicales maintenant au niveau du changement climatique. Nous allons être confrontés avec des maladies de transmission des vecteurs, comme le dengue, le zika, toutes ces moustiques, la fièvre jaune, le chikungunya et d'autres aussi. Quatre et dernier groupe de préoccupations. Donc, j'ai pas suivi un ordre hiérarchique. Un des plus grands problèmes, c'est réduire l'inégalité sociale. Ici, c'est vrai que quand on a un aristocrate ou, disons, un travailleur ou un Africain, un Portugais, quand ils sont nés, par exemple, avec une autre religion, ont accès à...
Digamos, inéquidades.
Qu'il n'y ait pas de ces inégalités au niveau de quand un enfant... Et quand un enfant naît, c'est pour ça que le Portugal a été très et a fait un progrès à ce niveau-là, au niveau de la santé maternelle. Et l'égalité n'est pas un problème au niveau des accouchements, etc. Cela ne se passe pas après. Ou au niveau de cycle de vie, on établit des aspects, des gradients d'inégalité, etc., sans respecter l'opportunité des chances. Cela est une question de démocratie qui doit être rapidement résolue. Merci beaucoup.
Merci, Monsieur Francisco Jorge. Vous nous avez lancé des défis en tant que parlementaire et politicien dans ce domaine, et aussi en ce qui concerne l'importance de la santé de la population, ce qui est une question de démocratie, et je crois que là-dessus nous serons tous d'accord. Et aussi, je souligne la question d'Alzheimer, d'avoir déjà les premiers signes 15 ans avant chez les plus pauvres. Et les défis que nous devons faire face en tant que citoyens, mais en tant que législateurs d'un certain système, il nous faut donc agir de plus en plus sur la prévention et sur le bien-être de notre population. Je vous remercie beaucoup, professeur, et je passe la parole à la parlementaire Cécile Lundgren, membre du Parlement parlementaire de Suède et présidente de la délégation suédoise à l'UIP, qui partagera avec nous l'expérience de son pays, le lien entre santé et environnement, les ODS en termes d'impact sur la santé et en particulier sur les populations les plus vulnérables, les plus marginalisées. Je lui passe la parole et je lui remercie vivement d'être là parmi nous. Micro, discoureur micro. Merci, Monsieur Madame la Présidente. Merci aussi de m'avoir invité de venir au Portugal pour ces journées si intéressantes. Et je vais nous avons des premiers pays à être à reconnaître le Portugal après le 1641. Et de plus donc de 300 ans. Je vous remercie aussi à ce panel si intéressant. Vous avez donné des exemples concrets aussi. Je vais vous parler aussi d'exemples concrets de la Suède en ce qui concerne la santé et le bien-être. Facteurs importants pour augmenter la sécurité, pour de meilleurs rapports et de coopération. Quand les personnes se sentent mieux, prennent de meilleures décisions, ils agissent plus rationnellement et prennent des responsabilités. C'est donc un des objectifs les plus importants et le privilège d'avoir été élu membre du Parlement pour les questions de santé. Et pour l'avenir, nous avons besoin de travailler ensemble davantage. La Suède fait des efforts depuis longtemps pour l'avenir. Nous voulons améliorer la santé publique. Il y a des exemples ici avec les mesures des Nations Unies. Et nous avons fait des efforts. Nous sommes maintenant numéro un. Nous avons fait des progrès de parmi les pays dans le monde. Mais il y a un ranking, une position. Nous n'assumons pas que nous sommes en première place et que c'est quelque chose d'acquis. Non, il faut travailler tout le temps et travailler demain mieux que nous n'avons travaillé hier. La santé est une des questions nationales qui sont les plus discutées. Nous essayons donc d'avoir des bons débats comme représentants élus. Et c'est des questions, donc, je disais, les plus discutées. Et c'est un des points qui le plus importe à la population. C'est une de ces choses que les démocraties existent, qui intègre le débat du peuple. Et ceci est très bon.
Ja, då kom det mycket på en gång. Well, there we are. Nearly back home. Encouraging healthy life.
L'encouragement et l'investissement dans les soins de santé, c'est l'investissement à l'avenir de toute la société. La recherche et le développement et les capacités innovatrices, l'esprit d'entrepreneur et hier, nous avons entendu parler de ce que Portugal fait, mais aussi tout ce qu'ils ont fait faut autour du monde. Il y a plus des efforts technologiques un peu partout dans le monde. Et nous essayons aussi de faire de notre mieux en Suisse. Et nous reconnaissons aussi la super excellence chaque année avec les prix Nobel qui ont accordé chaque année en décembre et qui nous donnent les meilleurs et qui priment les meilleurs exemples médicaux et cliniques un peu partout dans le monde. Il faut être et avoir cela à l'esprit quand on décide la politique de l'avenir. L'air pur, l'hygiène, la santé, ce sont des droits fondamentaux pour l'avenir des populations. Comment est-ce que nous le faisons? Nous avons une stratégie nationale, nous avons un plan d'action national, mais nous sommes aussi comparés au niveau national. C'est qu'au niveau régional et local, nous avons des acteurs très importants et qui combinent tous les efforts et la mise en œuvre de ces trois niveaux qui sont la clé essentielle de succès au cours des dernières années. La deuxième chose que nous faisons, c'est que nous mesurons tout. Nous définissons des objectifs et nous mesurons et nous partageons les valeurs, nous partageons les expériences, nous faisons des comparaisons et nous avons des enregistrements sur tout. Et nous l'avons fait pendant des décennies et c'est pourquoi je peux vous parler d'objectifs clairs que nous savons que nous pouvons aller de l'avant parce que ce sont des objectifs réalistes et parce que les gens collaborent, les personnes collaborent le plus possible et partagent. Quant à la stratégie du cancer, par exemple, c'est une, comme vous savez, dans le monde occidental, c'est une des maladies sur laquelle on travaille depuis des années et des années. Et il nous faut changer maintenant les choses parce qu'il y a beaucoup de personnes qui perdent leur vie avec la technologie, l'innovation, avec la biomédecine, avec l'intelligence artificielle. Nous pouvons faire beaucoup mieux. Et en ce moment, il y a beaucoup plus de monde qui vivent curés et qui ont eu la cure du cancer par le biais de ces moyens. Il faut donc définir des objectifs à tous les niveaux, local, régional, national, et ensuite combiner tous les trois. Il faut que ces objectifs soient réalistes, il faut les suivre ensuite. Nous appelons à tous les individus un peu partout pour qu'ils participent. Nous appelons à la société civile, aux ONG, le secteur des affaires, le secteur commercial, le secteur de l'éducation. Nous essayons d'être aussi, d'avoir un éventail aussi large possible dans toutes les discussions que nous avons. Et nous voulons qu'ils partagent avec autant de personnes qu'il nous est possible. En Suède, nous demandons qui n'a pas un plan d'action pour les sessions. C'est un investissement à l'avenir. Il faut que les personnes vont vivre plus longtemps. C'est magnifique, mais il y en a qui n'ont pas d'appui, pour les maladies, par exemple, des maladies mentales. Et quand on parle de santé et de bien-être, ce n'est pas uniquement du diagnostic les médicaments, etc. Non, il faudra aussi considérer l'importance de du bien-être et savoir ce qui est le rapport entre la santé et le bien-être. Et cela est aussi la clé pour la cure du cancer et aussi pour une société mieux portante. Nous voulons améliorer les choses, nous n'attendons pas les solutions qui tombent du ciel ou qui soient définies d'une fois pour toutes. Nous voyons les choses qui doivent être résolues. Un des exemples, c'est les conflits dans ces objectifs. parmi les objectifs. Il faut nous identifier, il faut les traiter, il faut y aller de l'avant. Les décideurs politiques doivent être plus orientés vers les questions de la santé. C'est là qu'il nous faut prendre des décisions et qui sont nécessaires, ne pas prendre des décisions qui ne sont pas nécessaires, ni mesurer des choses qui ne sont pas nécessaires. Je crois que nous pouvons faire mieux encore que ce que nous avons fait. Nous avons encore un travail immense devant nous. L'évaluation doit être faite à chaque page, à plusieurs reprises, pour que nous soyons de plus en plus que nous ayons de plus en plus de succès, tant au niveau local comme régional et national. Nous avons parlé de projets de succès, mais parfois ces projets s'arrêtent et leur mise en œuvre exige davantage de responsabilité et de financement, bien sûr. Et je suis d'accord avec Francisque Georges, avec la question de la résistance antibactérienne qui n'est pas encore mesurée par rapport aux objectifs directs. Ce n'est pas seulement bon. Il faut être mieux aussi dans ce domaine. Au niveau européen, mais aussi au niveau mondial. La résistance aux antibiotiques est un problème important et qui va s'élargir encore davantage à l'avenir. Donc, cette étude est absolument nécessaire. Nous pouvons contribuer dans nos vies quotidiennes comme législateurs, comme décideurs, comme personnes humaines. Et il nous faut reconnaître autour de nous qu'il y a des personnes qui ne sont pas bien, qui ne se portent pas bien. Et on ne peut pas rester là, assis. Et il faut savoir ce qui se passe avec les gens qui nous entourent. Et je vais vous donner un autre exemple qui peut-être vous choquera. En Suède, nous avons maintenant mis en œuvre la prohibition sur le tabac. Ce n'est pas nouveau, ce n'est pas... On ne peut pas fumer au Parlement, dans les hôpitaux, dans les stations, dans les gares. Nous avons maintenant l'interdiction du tabac. C'est un long débat. Les entreprises du tabac, les sociétés du tabac ont été très fâchées, mais nos petits-enfants nous remercieront un jour. On a fait la promotion d'un nouveau produit qui n'a pas de tabac et de nicotine. So, bienvenue en Suède, le pays qui ne fume pas. Et il y a un nouveau dans des équipes multimobiles. Nous avons des institutions de soins de santé au niveau local, les hôpitaux, et nous avons bien sûr les hôpitaux universitaires. Les personnes ont vraiment besoin d'avoir les bénéfices de toutes ces institutions. Et nous avons les médecins vont à domicile, les infirmières vont à domicile, vont visiter pour les personnes qui ont un cancer, qui n'ont pas besoin d'aller à l'institution. C'est nous qui y allons. Et il faut parler beaucoup avec les médecins, avec les infirmiers. Ils ne veulent pas sortir des institutions, mais maintenant ils ont compris par exemple, les émergences, les personnes n'attendent pas en ligne parce que nous avons réduit le nombre de personnes qui ont besoin d'aller aux institutions. Nous avons réduit les services d'émergence aux 85% pour les personnes les plus âgées qui ne peuvent pas recevoir, qui ne peuvent pas venir à l'hôpital, reçoivent la visite d'un médecin ou d'un infirmier, ils reçoivent les mêmes soins que s'ils étaient à l'hôpital. On peut faire davantage et même si nous faisons bien aujourd'hui, nous pourrons faire beaucoup mieux à l'avenir. Merci beaucoup.
Thank you, Cecilia.
Merci, Cecilia. Merci. C'est une bonne stratégie. Maintenant, je vais parler en portugais. Oui, Cecilia nous a présenté la vision de l'investissement dans la santé comme un investissement dans l'avenir, qui a été une vision partagée par les autres intervenants de notre conférence, une stratégie bien définie, structurée, mais avec des objectifs réalistes. C'est très important d'avoir des objectifs réalistes, des mesures qui tiennent en considération cette stratégie et des politiques orientées au niveau des résultats, mais qui prennent en considération que ces politiques définies ne sont pas suffisantes, fermées au niveau d'un Parlement. Il faut inclure, il faut impliquer les communautés professionnelles. C'est comme ça qu'on pourra mettre les politiques en pratique et aussi les défis relevés au niveau de l'économie et les agents de l'économie. En relation avec les mesures prises et définies qui deviennent des défis et donc il faudra un réajustement de cette économie au niveau des changements à l'avenir qui prennent en considération les priorités et le bien-être des personnes. Cette concentration au niveau des personnes, merci beaucoup au niveau de cette vision. Maintenant, on a la présidente Gabrielle Cuedes qui vient d'arriver, que j'aimerais souhaiter la bienvenue. Donc, nous allons entendre la vidéoconférence. Je pense que tout est préparé et nous donnons la bienvenue à Emilia Aragon d'être ici avec nous. On aimerait lui souhaiter la bienvenue et de pouvoir. Elle a entendu les différents conférenciers. Elle va nous parler du Bureau régional de l'OMS pour l'Europe, santé, développement. Et donc, je lui passe la parole.
Hello, good morning.
Bonjour à tous. Je suis en train de vérifier si vous pouvez vous m'entendez, ça va? Oui. Nous vous souhaitons la bienvenue. J'aimerais vous remercier au niveau de cette invitation. Je m'appelle Emilia Aragon. Je travaille pour le Bureau régional de l'OMS pour l'Europe au niveau de la durabilité et des programmes de santé. J'ai entendu différentes contributions des conférenciers. C'est en ligne avec ce que j'ai préparé. Je vais quand même souligner certaines différences et d'autres situations que j'ai pu observer. Alors, est-ce qu'on est très loin au niveau de la réalisation et il y a eu des signes de progrès, l'espérance de vie a augmenté comme cela a été mentionné, mais un aspect qu'il faut vraiment prendre en considération, ce sont les inégalités dans les pays et c'est un exemple d'une différence de 10 années dans les pays qui feront partie de la région européenne. On peut voir aussi des différences, comme a été mentionné par un des conférenciers, au niveau des groupes qui ont un contexte socio-économique différent et dans différentes communautés qui va dépendre au niveau de leur exposition. On doit préparer la population pour 2050, il y aura 35 personnes on aura 35% d'une population plus âgée. Il y a eu de bonnes nouvelles, il y a eu des objectifs qui ont été atteints. La région a déjà diminué. Il y a eu une réduction au niveau de du taux de mortalité et il y a eu des régions qui n'ont plus de malaria et de polio pendant des années et plusieurs de ces aspects sont un défi au niveau du taux de la mortalité maternelle. Cela n'a pas été aussi bon. Si on regarde la ligne en bleu et la ligne jaune montre d'autres indicateurs et donc c'est encore plus bas de l'objectif des Nations Unies. Donc chaque que les femmes 20 à 30 femmes seront affectées à ce niveau-ci et aussi les sociétés. Donc, cela n'est pas acceptable. C'est la même chose pour la mortalité infantile, etc. Donc, après avoir dit ceci, et ce qui a été mentionné par la collègue suédoise, même si on a atteint certains objectifs, il faut toujours faire mieux. Certains des objectifs des ODD peuvent être atteints. Par exemple, les ODD qui sont liés à des maladies, 86% et 7% dans cette région. On a besoin donc d'avoir plus d'action. Il y a des inégalités entre les pays plus pauvres et plus riches.
That we've seen comes from action.
Et
la plupart de ce que nous voyons dépend de l'accès à la nourriture, etc. Une autre lacune que nous ressentons, c'est la différence entre les la mortalité féminine. Il y a des bourses, des poches selon des régions, il faut faire un effort pour arriver aux 9 objectifs autour du tabac, par exemple, l'alcool, le sucre, les activités physiques, la réduction du poids et l'obésité dans la région européenne. Les produits de tabac sont encore assez accessibles dans plusieurs pays. Il faut changer tous ces systèmes de façon à pouvoir aussi réduire les problèmes par rapport à l'excès de poids et à l'obésité. La prévalence des maladies mentales augmente aussi et autour de 16%, et ce n'est pas uniquement dû au vieillissement de la population, mais des conflits, à l'exposition à des conflits, des migrations, des réfugiés, etc. Donc il y a beaucoup de problèmes qui expliquent ces problèmes mentaux. Aussi, l'âge est la ligne verte représente l'ODD que nous devrions attendre. Et dans la région, il y a 900 qui ont été nouvellement diagnostiqués et on voit que le mode de transmission. Je crois que madame parle des cas de rougeole, mais on entend très mal parfois, il y a des lacunes dans le. Oui, il parle de l'expansion de la rougeole, de personnes qui ne sont surtout continuées à pas de vaccin, de programme de vaccination. Il nous faut nous rappeler aussi qu'il y a d'autres objectifs qui entraînent la population. Et je parle de plus de 500 000 morts attribuables à la pollution atmosphérique. Et cela a un impact très fort sur la santé et sur les inégalités sociales aussi, en ce qui concerne les transports, par exemple l'habitation, tout le style de vie, etc. Tout cela peut contribuer au bien-être social. La consommation aux États-Unis, par exemple, sont aussi quelque chose qu'il faut prendre note. Il y a un impact sur l'environnement et sur et cela touche tant les humains que les animaux que l'environnement en soi. Et la nature. Donc, chaque année, il y a des problèmes de nouveaux microbes, de nouvelles résistances antimicrobiennes un peu partout dans le monde. Par exemple, les vagues de chaleur qui ont frappé l'Europe l'année passée ont causé des morts prématures au-delà de ce qui était prévu. Et les systèmes de santé doivent aussi permettre l'accès des personnes aux services de santé chaque fois qu'ils en ont besoin. Il y a de plus en plus de personnes qui sont en pleine pauvreté et qui dépensent tout ce qu'ils ont pour arriver, pour pouvoir accéder à des soins de santé. Et on peut voir l'avenir de ces frais pour les maladies de respiratoires, maladies chroniques, cancers respiratoires, etc. Et nous avons adopté en 2016 une feuille de route et cette feuille de route définit des priorités et j'aimerais souligner ici deux choses. Une, cette action, il faut une action multisectorielle. Et ce qui a été mentionné par la collègue suédoise. Et il faut aussi améliorer la façon comment les gens vivent. Le bien-être des populations, c'est quelque chose de très important. Et il y a la nécessité d'une bonne gouvernance et avec les trois niveaux de mise en œuvre national, local et régional, et l'importance aussi d'un bon monitoring. C'est aussi le besoin d'avoir des données et de ne pas laisser pour compte certains secteurs de la population. Nous travaillons aussi pour préparer un guide qui parlera de la mise en œuvre et qui essaiera d'être assez accessible et compréhensible, qui sera mise en œuvre jusqu'à l'agenda 2030.
Communities and we do this through different networks and what this network is doing.
Ce réseau essaye d'améliorer le partage de connaissances entre les pays pour mettre en œuvre cet agenda pour 2030. Le rôle des parlementaires, c'est de définir les lois, de publier, et c'est de représenter. Coordonner aussi les efforts pour une meilleure définition des objectifs de la santé et du bien social et veiller à ce que les choses soient mises en œuvre comme il faut et identifier les priorités et lancer des projets de loi adéquats. Je suis d'accord que nous ne pouvons pas tout faire, mais maintenant nous avons de plus en plus des connaissances qui nous permettent d'avancer. Je vous félicite pour avoir réalisé cette réunion et j'espère aussi que vous aurez appris quelque chose de ce que je vous ai dit. Merci, merci beaucoup, Émilie Aragon. Merci. C'était une bonne intervention, je pense. Et cela nous permettra d'avoir une bonne discussion, je pense. Et maintenant, je passe au portugais, maintenant. Parce qu'au moment, ce que je veux dire, c'est que nous allons revenir à notre séance et passer la parole à la fin de ces présentations de nos orateurs, de nos invités, à ce qui voudra intervenir au débat. Nous invitons tous à établir un dialogue avec nos orateurs, poser des questions, partager des expériences par rapport au thème que nous avons débattu, l'accès à la santé, les approches des déterminants sociaux et économiques de la santé, apporter des exemples, des opinions, comment promouvoir l'innovation et la technologie dans le secteur de la santé d'une façon durable et tenant compte des budgets nationaux. Et je vous invite donc à intervenir pour faire un... Faites-moi signe et je vous passerai la parole. Je passe la parole à la France et ensuite je vous demande de vous identifier, monsieur le député.
Merci beaucoup pour toute présentation, mais il me semble qu'il y a un sujet qui n'a pas été forcément abordé quand on parle d'accès à la santé, qui est aujourd'hui un problème très important en France, mais je crois que ça l'est aussi au Portugal pour avoir échangé avec une collègue députée, qui est effectivement la difficulté aujourd'hui de pouvoir trouver un médecin, et la création de ce que nous appelons aujourd'hui en France, mais je crois dans d'autres pays européens, de déserts médicaux, avec des installations de médecins qui se font aujourd'hui à l'échelle de grandes métropoles, un vieillissement de la population et des territoires qui sont aujourd'hui avec une absence totale de médecins et face auxquels nous avons d'énormes difficultés, malgré le fait que les collectivités mettent en avant différents moyens pour attirer ces médecins, qualité de vie, possibilité d'installation. Mais ces médecins, pour des raisons multiples et variées, préfèrent se retrouver dans de grandes métropoles. Au moment où nous parlons, nous discutons au Sénat d'un projet de loi santé qui a pour objectif d'encourager l'installation des médecins avec des mécanismes incitatifs, mais on se rend compte de la difficulté. Donc, ce qui m'intéresserait, c'est de voir si effectivement ce constat est partagé par les pays présents ici, et notamment en Suède, qui est effectivement pour nous un modèle en matière de politique de santé. Et face à cela, quelles sont les possibilités communes que nous pouvons avoir pour encourager, puisque on nous parle beaucoup de l'installation de médecins étrangers en France. Nous avons des médecins qui viennent de pays de l'Est, mais quand on discute avec les autorités de ces pays, on se rend compte que le problème est le même et que la difficulté d'installation des médecins dans ces pays est réelle. Donc, je pense que nous aurons beau élaborer toutes les stratégies de médecine sur tous les sujets, si nous n'avons plus aujourd'hui de médecins sur nos territoires, Certes, la télémédecine est une chose, mais ne nous voilons pas la face. Nous avons toute une frange de la population qui est aujourd'hui très très loin des réalités technologiques, avec là aussi une difficulté de couverture sur tous nos territoires. Donc je pense que nous avons là un véritable défi. Merci.
Merci beaucoup pour votre question, parce que je c'est comme ma préoccupation avec vous sur les territoires. Merci beaucoup. Eu acho que realmente temos aqui uma questão bastante importante.
On a une question très importante, c'est le défi de la couverture du territoire. Ce défi est le vieillissement de la population et aussi de la désertification de certains territoires qui sont de plus en plus déserts. J'aimerais remercier la question de la France qui a identifié ce problème. Et comme l'a dit le parlementaire, c'est aussi un problème d'autres pays, comme un problème au Portugal et aussi dans d'autres, je suis sûre, dans d'autres pays. Donc ce défi des médecins spécialistes au niveau de sa carrière, de leur carrière, de s'installer dans les plus grands hôpitaux, dans la métropole, etc. Cela mène à un défi pour la gestion et la conception de politique de proximité des citoyens. Donc, l'accès à la santé est un facteur pour la localisation des entreprises et des personnes dans ces régions du territoire. Et peut-être ça serait mieux de passer la parole si on a encore un peu de temps au niveau des questions qui vont être posées. Je vais demander au professeur Adalberto Camps Fernandes pour une première approche sur cette question. Merci beaucoup. J'aimerais dire aux parlementaires, je ne dirai pas que c'est la question qui vaut $1 million, mais c'est une question qui est extrêmement importante. Dans les pays européens, j'ai eu mon expérience ici au Portugal. Au niveau du gouvernement, j'ai toujours été préoccupée par les différents représentants locaux, politiciens, la difficulté de fixer nos médecins dans certaines régions. Mais non, on ne parle pas seulement des petites communautés, on parle de communautés avec une certaine dimension, comme au Portugal, la région de l'Algarve ou de l'Alentejo dans le sud du Portugal. Et je me rappelle, dans plusieurs réunions qu'on a tenues en Europe, on débattait le problème de la mobilité des médecins d'un côté et le manque de médecins en Europe dans les prochaines 20 années. L'Europe aura en général, dans tous ces pays, et pas seulement l'Europe de l'Union monétaire, mais toute la région européenne aura un grand problème au niveau de manque de médecins, parce que les besoins au niveau de la santé augmentent et la démocratisation de l'accès à la santé est élargie aux pays qui avaient de grandes difficultés, par exemple les pays de l'ex-Union soviétique qui sont maintenant autonomes, indépendants et se développent des politiques pour élargir la protection sociale. Donc c'est un problème qui a une échelle européenne. En Pologne, les médecins vont vers l'Allemagne ou en France. Il y a une tendance pour les petits pays, moyens pays d'exporter. Donc, il y aura l'effet d'attirer vers les grandes métropoles. Il y a deux aspects. Au niveau des médecins et des spécialistes, c'est très difficile de contrarier cette tendance. Il y a les médecins sont attirés au niveau des centres de recherche. Hier, je sais que vous avez visité la Fondation Champalimau. Cette fondation est l'exemple au Portugal. C'est quelque chose qui attire, disons, les professionnels, les jeunes pour travailler dans ces institutions. Et pour conclure ma réflexion, donc cette matière n'est pas seulement au niveau de la santé, c'est un modèle du développement du territoire. Nous parlons beaucoup de l'Europe des régions. On a beaucoup parlé du besoin de donner de la dimension, de l'échelle aux régions et de créer de nouvelles centralités, par exemple entre le Portugal et l'Espagne, dans leurs frontières. Le Portugal et l'Espagne ont des problèmes similaires et doivent créer une centralité. On doit créer un développement économique, créer des facteurs qui fassent que les plus jeunes familles se fixent dans les zones rurales. Et si je peux le dire, d'investir beaucoup au niveau de la décentralisation du territoire, c'est la meilleure forme de créer les conditions pour que ces différentes professions peuvent faire ce choix de la décentralisation. Et je vais aussi terminer avec un exemple au niveau de la Suède. Je l'ai dit, il y a certaines minutes, j'étudie les politiques de la santé. Et j'utilise la Suède comme un modèle. C'est un excellent modèle en Europe. Mais la Suède a fait très bien, disons, ce mouvement de décentralisation et de mise en commun. Donc, le mot-clé, c'est la décentralisation, responsabilité du territoire et des politiques qui vont créer des conditions pour que les médecins ne vont travailler pas contre leur volonté, mais puissent travailler dans les communautés locales avec certains encouragements, etc. Et je dirais, monsieur le parlementaire, cette question, encore une fois, c'est une question très importante dans toute l'Europe. C'est pas seulement dans les pays qui sont plus petits, plus pauvres, mais aussi au niveau des pays plus grands et plus développés, comme est le cas de la France.
Si c'est en effet une des questions qui est traité dans nos régions, dont je viens aussi de l'intérieur, d'une région de l'Interland, et quand vous étiez ministre, c'était un des motifs de réunion, c'était le défi de fixer des médecins et le type d'encouragement qui pourrait être fourni au-delà de l'argent pur et simplement. Aussi, par exemple, une progression dans les carrières et les attraits de ces régions-là, etc. Et je passe la parole à Madame Cécilia Green pour qu'elle puisse commenter cette question et ensuite Dr. Francisco Jorge, vous avez la parole. Merci beaucoup. Et laissez-moi commencer parce que c'est la même chose un peu partout, en France, au Portugal et en Suède. C'est un problème européen. Et c'est la base de l'éducation et l'attraction de la fonction est essentielle dans ce type de travail. Mais par exemple, nous avons d'essayer d'avoir que les médecins soient médecins, n'aient pas à se charger de problèmes de bureaucratie, d'administration, qu'ils aient plus de temps pour les patients et l'accès serait meilleur comme ça. Il y a eu des débats entre les médecins et les infirmiers et qui doivent partager encore d'autres fonctions et cela a été discuté par exemple avec le syndicat des médecins ou l'ordre des médecins. Dans notre Suède rurale, il se passe un peu ce qui se passe comme en Italie, il y a le sud et le nord et les médecins veulent s'installer au nord plutôt. Et nous avons de la télémédecine par Skype, par exemple, et il y a des opérations avec les télécoms. Et dans les zones rurales, elles n'ont pas besoin de déplacer les personnes parce qu'il y a les liaisons aux hôpitaux universitaires, par exemple. Et ils peuvent interagir avec les collègues quelquefois. Et donc, Et l'autre chose dont je peux aussi parler, nous avons aussi un débat là-dessus. Nous allons voir les patients, les malades dans leur maison, à domicile. Nous essayons d'utiliser le spécialiste, les spécialistes que nous avons. Et voilà, c'était la conclusion de ces trois points. Docteur Francisco Georges, vous ne voulez pas commenter sur ce thème? Non. Alors j'invite... Docteur Emilia Aragon, si elle vous souhaite tisser des commentaires sur cette question. Mais... C'est plutôt de qu'il faut changer le paradigme mental sur ce qui concerne la santé. C'est important. Penser au développement et non seulement motiver les gens à se déplacer des villes vers les zones rurales, par exemple, mais que cela soit intéressant pour ces professionnels et qu'ils comprennent le potentiel et l'apport positif qu'ils peuvent apporter à la communauté en général pour le développement économique et l'amélioration de environnementale même.
Et agora,
nous continuons. Je passe la parole au président du groupe d'USMA, Duarte Pacheco.
Merci, Madame la Présidente. Je voudrais remercier les interventions très riches. Deux ou trois questions pour compliquer notre débat. Selon une logique au niveau du rapport, la relation santé, et nous avons de grandes différences au niveau de tous ces aspects. Si nous avons des régions dans le monde où il n'y a pas d'investissement dans des infrastructures, accès à l'éducation, au potable, etc., ce qui peut exister au niveau d'une vie plus saine, cela n'est pas le plus grand problème dans les pays qui font partie de notre groupe géopolitique. Politique, on est à notre niveau, mais à cet autre niveau, il peut y avoir certains de ces problèmes. On a surtout, et j'aimerais entendre cette relation de durabilité du système. Nous avons un système de santé, d'une certaine façon, essaie de couvrir toute la population et l'accès. Que cet accès soit universel au niveau de l'Europe, des pays développés. Mais il y a les coûts de ce système. Les coûts de ce système, combien ce système coûte. Et cela signifie que comme parlementaires et les politiciens et professeur Fernandes a pu observer cela dans ses fonctions de ministre, comment partager les ressources, distribuer les ressources qui sont de plus en plus faibles au niveau d'une population qui est plus âgée, qui a besoin de soins de santé et la technologie de plus en plus chère et avec des médicaments qui sont de plus en plus chers. Donc la durabilité du système, cette durabilité, parce qu'on ne veut jamais, parce qu'on veut progresser. Personne ne veut questionner ce qui a été fait dans le passé. Et j'aimerais ajouter deux notes. C'est l'âge, l'espérance de vie qui a augmenté, mais avec quelle qualité cette espérance de vie, puisque l'espérance de vie a augmenté, mais vivre plusieurs années sans qualité de vie, qu'est-ce que cela? Et un problème qu'on a au Portugal, c'est le fait que les âgés, la solitude, l'attitude des plus vieux, c'est vraiment une réalité qui est un gros problème au niveau de notre service national de santé, parce que les plus âgés viennent, ils veulent ils veulent certains mots, ils veulent donc comment est-ce qu'on peut contredire cela? Et que cela n'est pas fait avec des machines. On a besoin d'une force de travail. Et le manque de docteurs a été mentionné. Et avec le vieillissement de la population, diminution de la population active, toutes les autres ressources humaines qui sont nécessaires. Et si, soit on augmente, et avec l'augmentation du taux de natalité, il va falloir ouvrir nos frontières à d'autres peuples pour et à ceux qui veulent venir en Europe. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Monsieur le Parlementaire. Ben non, cette question au niveau de la durabilité du système, c'est vraiment un défi. Voilà, encore une fois, les questions liées au budget. Nous avons des collègues de ces comités de finances économiques. Au-delà des objectifs des soins de santé, les défis à ces différents niveaux, la solitude, ressources humaines, la solitude des plus âgés, etc. Donc, je vais passer la parole au professeur. Merci beaucoup, monsieur parlementaire. Vous avez raison. Ce sont des problèmes qu'il faut évaluer. Surtout, et je souligne au niveau politique, parce que ce sont les politiciens qui décident qui légifèrent sur les politiques. Donc, il faut être responsable. Les centres de décision doivent être responsables au niveau des solutions sur ces questions. La solitude associée à l'âge avancé, ce sont vraiment des raisons de préoccupation qui demandent une réponse sociale. Laissez-moi vous rappeler qu'ici, le groupe d'âge qui a plus de 85 ans, a 40% de probabilité d'avoir une maladie mentale comme l'Alzheimer, une maladie de démence. Alors, quand ils sont âgés de plus de 85 ans, la probabilité d'avoir cette démence est de 40%. Et il faut admettre qu'il y a beaucoup ceux qui sont considérés âgés en outre de leur âge, ils ont un problème de démence qui n'est pas traité comme tel. Donc, il y a des questions qui concernent les épidémiologues et que les politiciens, les parlementaires doivent analyser en détail pour prendre les mesures qui sont nécessaires.
Passe la parole au professeur Adalbert Campos.
Je passe la parole à Adalbert Campos. Merci beaucoup. Si vous me permettez, Douat Pacheco a mis le doigt sur ce qu'on peut, là où ça blesse. Et ce qu'on peut voir du point de vue de l'observation, il y a quelques mois, l'agence de dotation financière Moody's a fait une alerte par rapport à l'État portugais sur le problème de la transition démographique. Ce que nous assistons, préoccupés, c'est qu'il y a des pays qui nous n'accommodons peut-être pas toute la dimension stratégique, l'hiver démographique aura dont les conséquences sur le développement, mais aussi humain. Dans 20-30 ans, nous aurons une composition totalement différente de notre tissu social. Des mesures comme celles qui ont été prises au Portugal, de réduction brutale du prix des titres de transport, on fait en sorte que les personnes âgées soient des principaux intervenants dans l'utilisation des transports pendant les week-ends. Il y a quelques jours, le président de l'autorité métropolitaine des transports, les transports notamment routiers et ferroviaires, les transports lourds, le week-end ont une fréquence brutale par les gens âgés qui font le tour, vont du début jusqu'à la fin et reviennent. On a d'abord apprécié cela d'une façon un peu humoristique, mais cela change le patron de vie, le standard de vie de quelqu'un qui passe 11 heures de son temps face à un écran de télévision. Cela a des implications sur l'activité, même physique, mais surtout dans les rapports des personnes aux autres et sur la et de nouveaux liens affectifs qui s'établissent non seulement entre les membres de la famille, mais avec la société en général. Il ne suffit pas de discuter, eh bien, ce que notre collègue a discuté, les changements du burden of disease, la transition biologique, etc. Au Portugal, nous avons des charges biologiques de ce point de vue-là, des diabètes, des maladies chroniques. Le cancer est devenu une maladie chronique. Il faut comprendre comment sera la société européenne dans 15, 20, 30 ans, du point de vue humain, mais aussi du point de vue économique et financier. Finalement, c'est peut-être le moment pour que les pays comprennent qu'il est urgent d'introduire des politiques de santé et d'action sociale. On ne peut plus avoir deux lignes politiques parallèles, car la santé est aujourd'hui l'action et support du social, et les deux sont des santé. Considérer que le système de santé traite de la maladie physique, c'est une erreur très grave de l'analyse, car aujourd'hui, l'approche sur la personne âgée doit être multifonctionnelle et multisectorielle. Merci beaucoup. Je crois que je ne sais pas si Emilia Aragon souhaite dire quelque chose là-dessus. Emilia Aragon? C'est très important d'avoir souligné cette approche intersectorielle, car l'horizon de 2020, c'est un des objectifs importants. Et il faut souligner quels plans doivent être dessinés et quelles seront les priorités pour le développement, non seulement dans les pays développés, mais aussi dans les pays en voie de développement. Et quelles sont les priorités au niveau national pour le développement économique, social et humanitaire, et quelles sont ces priorités que nous devrons mettre en contexte quand nous décidons les politiques pour le secteur de la santé et considérer tous ces secteurs ensemble, les transports, l'agriculture, les parlements, etc. Et il faut que tous les secteurs contribuent pour ces priorités. L'approche multisectorielle est essentielle. Et il faut qu'il y ait donc cette approche intégrée. Merci beaucoup. Et maintenant, la Slovénie.
Miss Chair.
Merci, Madame la Présidente. Hier, la séance a été très organisée et c'était une séance très informationnelle. Donc, les médecins essayent de découvrir des médicaments au niveau des malades. Les pays doivent changer leurs valeurs et leur système de valeurs. C'est un défi pour la société pour assurer qu'il y ait une meilleure santé de vie à travers la vie. Réduire les inégalités de la santé est un des vecteurs clés pour pouvoir créer des conditions pour une bonne qualité de vie. Et donc, il faut éduquer les résidents sur l'importance d'une vie saine et les changements qui vont affecter la qualité de vie pour toutes les générations et la réduction des pressions environnementales. Donc, chaque jour, je me demande quelles sont les solutions des pays. Et je sais que l'euthanasie ne doit pas être une solution. Donc, il faut aider les gens, construire des niveaux de santé parce que je veux, disons, un âge qui soit plus décent. Merci beaucoup. Combien de vous qui veut parler en ce moment-ci?
Thank you very much.
Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je m'excuse pour m'avoir. Je suis convaincue qu'on n'aura pas une bonne qualité de vie sans avoir une bonne santé et une bonne protection sociale. Un bon bien-être, ce sont de bons indicateurs qui montre si on est sur la bonne direction au niveau de la durabilité. Donc, tous les efforts au niveau de maladies mentales et d'autres est vraiment un exercice important. Il y a des droits fondamentaux et on a besoin d'autres aspects. Madame Lee, et l'interprète n'a pas son document. Et on peut dire donc que le développement technologique et l'innovation jouent un rôle très important pour avoir des mesures avec succès. Et au niveau d'autres indicateurs, on est confronté à plusieurs maladies. Donc il y a des signes positifs. Et il y a un certain progrès qui a été fait dans les pays en développement pour fournir de l'eau potable, etc. Mais on a quand même beaucoup à faire au niveau de ce domaine. La pollution, l'eau, l'air, même si l'émission est due à d'autres aspects qui va diminuer l'espérance de vie. Donc, il y a certains aspects qui doivent être diminués. Il y a une tâche très commune au niveau de la proportion des terrains de l'océan et des rivières dû à la pollution. Le prochain défi est gérer les risques causés par différents matériels comme l'amiante et d'autres produits chimiques, etc. Et en dernier lieu, il faut faire face aux risques communs au niveau du changement climatique et les maladies, inondations, conséquences que cela aura sur la santé. Et le progrès dans ce domaine demande des activités coordonnées, de l'information, diffusion, recherche et développement pour fournir des cadres légaux et institutionnels. Et il faut faire plus. Il y a des bonnes pratiques qui confirment que la question, ce n'est pas d'avoir une meilleure qualité de vie, mais il faut essayer de trouver une solution gagnante pour souligner la durabilité. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Maintenant, je vais passer la parole. Je pense qu'il n'y a pas d'autres questions. pour le débat. Donc, je vais passer la parole à nos conférenciers pour clôturer cette séance basée sur deux questions-interventions qui ont été faites par les parlementaires et que j'aimerais remercier à la Slovénie, à l'Hongrie, d'avoir aussi participé dans notre débat. Encore une fois, je vous remercie. Je vais commencer avec, par ici, avec le professeur Fernandez. Vous avez la parole. Et après, l'ordre normal. Au niveau des interventions, merci beaucoup. J'aimerais encore remercier l'invitation et en représentation des parlements nationaux sont conscients que nous vivons dans un monde qui a des inégalités, un monde qui peut être mieux au niveau de développement si les pays veulent faire des différentes politiques de la santé, etc., pour réduire les inégalités. Donc, ce sera un monde avec plus de paix, avec plus de cohérence, plus juste si la démocratie est réalisée à travers des santé publiques qui font la promotion de la dignité humaine, qui respectent les personnes et comprendre que nous allons vivre de plus en plus d'années et on doit pas vivre dans différents. Je suis d'accord au niveau de l'idée quand ce n'est pas l'euthanasie qui va résoudre le problème de la dignité humaine et ni le respect pour les conditions des personnes.
Obrigada.
Merci beaucoup. Je passe la parole au professeur Francisco Jorge. Vous avez la parole. Merci beaucoup. Bon, je dois dire que ce débat est un, disons, est le commencement d'un processus qui doit être réalisé d'une façon très sérieuse et très intense dans tous les parlements et au niveau des pays qui sont représentés. Ce débat n'est pas un débat tranquille, disons. Il y a vraiment des raisons de préoccupation. Et quand on aura conclu cette initiative, on a besoin que les respectifs parlements puissent continuer cette réflexion et concevoir des mesures pour corriger la situation. Aujourd'hui, il y a 75 ans, il y a eu le débarquement en Normandie et qui a inauguré. Ça a été ce débarquement a été le commencement de la paix pour l'Europe. Il faut continuer à vivre avec cette paix. Et aussi, on a besoin de continuer à améliorer les conditions de vie des populations européennes. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Je passe la parole à Cecilia pour qu'elle dise ses considérations finales. Merci beaucoup. Oui, c'est quand on considère les indicateurs et les objectifs ODD, le Portugal a joué du football hier avec la Suisse. Ils sont très bien, ils ont gagné. Nous pouvons faire le change. Nous pouvons faire la différence. Il nous faut prendre les choses en main. Nous avons eu un débat très intéressant et nous avons considéré plusieurs opportunités. Il y en a beaucoup. Le développement aujourd'hui montre qu'il y a l'innovation, le progrès et l'esprit d'entreprise, d'entrepreneuriat. Le temps avance très vite maintenant. Il avancera encore plus vite très bientôt. Et il y a tous ces défis qui se nous posent. Le vieillissement est un problème qui a été aussi débattu aujourd'hui ici. Il y a énormément de défis, mais c'est nous qui devons être dans la ligne de la première ligne pour libérer ce mouvement. Oui, le leadership est essentiel et nous ne pouvons pas exclure les responsabilités. Même c'est exactement le contraire. C'est à nous de jouer, disons. Pour finir, je passe la parole à Émile Aragon. Je lui remercie d'être ici avec nous pendant cette matin et d'avoir participé à cette conférence. Merci, vous avez la parole. Merci pour m'avoir invité, mais j'aimerais souligner que je partage et nous avons ce que nous avons partagé ici était très important et j'aimerais vous inviter tous quand vous reviendrez à vos parlements à diffuser tous ces aspects dont nous avons parlé aujourd'hui. Et je passe aussi mes remerciements de l'office du bureau régional. Et il faut voir avec toutes les communautés ce que tous peuvent faire ensemble et apporter des exemples sur la façon que on peut améliorer la vie de nos concitoyens. Quels sont les mécanismes que vous utilisez, les mécanismes financiers pour transmettre et diffuser la bonne parole, disons. Et je vous remercie de cette opportunité et j'espère pouvoir collaborer à nouveau avec vous. Merci beaucoup. Je vous remercie donc tous. Nous savons tous que le président Lupe est le président du groupe géopolitique de 12+. Nous a suscité, nous a motivé en tant que parlementaire à promouvoir des séances de ce type et faire un travail qui pour qu'on puisse constater dans notre pays comment avance chaque objectif des ODD et ce que nous avons atteint selon ce qui est dans le plan. Je vous rappelle que nous avons été en Israël dans une initiative semblable qui fut aussi très intéressante du point de vue de l'innovation et de la technologie. Et dans le fond, tous ces objectifs, tous ces ODD ont un souhait et un travail pour qu'on puisse améliorer la vie de nos populations et des individus. Et c'est l'objectif des politiques et des politiciens, je crois, c'est servir. C'est dessiner et concevoir des politiques publiques réalistes et adressées à des populations concrètes. Ce n'est pas uniquement à des populations imaginaires. Il faut connaître les territoires, il faut connaître les difficultés de chaque population et savoir quelle est la meilleure façon de servir ces populations en tenant compte des intérêts divergents, parfois des corporations en présence avec lesquelles il faut savoir vivre, mais appeler à ce que la mission de nous tous et de notre travail, c'est servir les autres et pouvoir promouvoir le bien commun et la vie, et le bien-être de nos populations. Donc, je clôt ce débat. Je vous dis que pour moi, c'était un honneur d'être ici, d'être la modératrice de ce panel. Je vous invite au coffee break. Ensuite, nous aurons une photo de Fanny pour clôturer cette séance. Et comme vous l'avez dit aussi, c'est un défi. C'est un coup de pied sorti pour d'autres réflexions, pour un travail qui se poursuivra, nous l'espérons. Merci beaucoup à tous.